Bonjour Monseigneur Jean-Marc Mika.
Bonjour Anne-Rose.
Merci de nous retrouver sur les ondes de Radio Présence pour un nouvel entretien. On va aborder plusieurs sujets aujourd'hui. On va commencer par des sujets joyeux qui ont marqué la vie de notre diocèse ces derniers jours. La semaine dernière, nous étions au sanctuaire Notre-Dame d'Eas, samedi 6 septembre. C'était un des rendez-vous que vous aviez donné à tous les diocésains dans un de nos sanctuaires dédiés à la Vierge Marie. C'était une belle journée.
Très belle journée. On a eu beaucoup de chance avec le temps d'être dans un lieu pareil, à 1500 mètres d'altitude, en haute montagne ou proche de la haute montagne, une journée pareille, c'était très agréable. Et la journée elle-même s'est déroulée de manière magnifique.
Voilà, alors on peut dire quand même que les diocésains sont à chaque fois un petit peu plus nombreux. Il y en a qui sont là depuis le début, d'autres qui se greffent. Enfin, voilà, c'est un petit peu le dynamisme de notre vie diocésaine. Toujours un petit peu de surprise, on ne sait jamais vraiment qui va être là. Et puis, on
se découvre. Ça me fait très très plaisir, et c'était le cas encore à Eas, que pas mal de personnes présentes me disent « c'est la toute première fois que je viens ici ». Et clairement, ils sont venus parce que c'était un rendez-vous diocésain et pas parce qu'ils étaient des habitués du pèlerinage annuel à Eas.
Voilà, et alors on rappelle quand même qu'il reste une étape, hein, un rendez-vous dans le sanctuaire marial de Lourdes, puisque nous avons rendez-vous du 18 au 21 octobre prochain. Ce sera le dernier de la série, ce sera vraiment le feu d'artifice. Dimanche dernier, vous étiez au Cenacolo pour la fête annuelle. Alors, autre ambiance, on suppose. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé? Parce que c'est quand même un lieu fort de notre diocèse qui en dit long sur notre soif de diaconie.
Alors c'est le Cenacolo de Lourdes, puisqu'il y a la communauté pour les filles à AD. Là c'est les garçons, et donc ils ont l'habitude de trouver toutes les occasions possibles, m'a dit le responsable, pour avoir une occasion de casser le rythme habituel des journées, extrêmement exigeant, extrêmement prenant, et donc d'avoir des raisons de faire la fête. Alors chaque année, ils font la fête à l'anniversaire de l'ouverture de la maison, et c'était le cas donc dimanche dernier. Une messe avec participation de beaucoup, 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 beaucoup de gens, des amis de la communauté, des familles, des jeunes qui y sont accueillis, des personnalités. Il y avait le maire de Lourdes, il y avait le préfet, et puis d'autres partenaires qui, associations, etc., membres du conseil d'administration, soutiennent vraiment cette œuvre du Cenacolo. Donc la messe, et puis un repas fraternel partagé ensuite et préparé par les jeunes avant. Une après-midi plus de festivités, de spectacles. Alors moi je suis parti parce que j'avais d'autres rendez-vous, d'autres activités ailleurs, mais vraiment c'est une très très belle rencontre dans un lieu qui est vraiment très très beau aussi, et c'est toujours extrêmement émouvant de passer du temps avec ceux qui sont accueillis dans cette communauté et de leur manifester notre confiance, notre soutien pour le combat qu'ils sont en train de mener.
Alors justement, j'ai remarqué qu'à chaque fois que vous nous parlez du Cenacolo, on sait que c'est un lieu où habitent des personnes qui sont marquées par des blessures très profondes, vraiment par des souffrances qu'ils portent. Et pourtant, à chaque fois, vous nous racontez des moments joyeux, plein de joie, plein de miséricorde. Ça paraît assez incroyable.
C'est le génie de l'intuition de Mère Elvira, ouais, la fondatrice de cette œuvre, que d'avoir su trouver, je crois, la bonne manière de faire pour que des ténèbres surgissent malgré tout la lumière. Et c'est profondément motivé par ce que la foi donne de fondement à l'espérance, hein, c'est l'année de l'espérance,
oui.
Bien là c'est un lieu vraiment où l'espérance se déploie et est fondée dans la foi, au cœur même de la détresse des personnes et du monde, et ça marche. Et donc c'est une illustration que la foi n'est pas vaine et que l'espérance n'est pas vaine, et puisqu'il y a des lieux comme cela où de fait ça se vérifie.
Voilà, et on a la chance d'avoir un lieu comme cela dans le diocèse de Tarbes et Lourdes. Allez, on va parler d'un tout autre sujet. On ne peut pas cette semaine ne pas parler de la crise. Alors bien sûr, on pense à la crise politique là en France, la crise du monde politique, mais peut-être de la politique en général, qui est certainement plus que ça, au fond, une crise un peu de notre société. Cette semaine, il y a eu ces manifestations Bloquons tout, rien que le nom de cette manifestation en dit long, bloquons tout. Alors, en tant que chrétien, on peut aussi être choqué, en colère, face à des fonctionnements de la société, face à des choix politiques, face à des réalités qui nous mécontentent fortement. Et pourtant, bloquons tout, c'est quand même, ça semble bien à l'opposé de ce que nous dit notre foi chrétienne.
Les chrétiens sont des citoyens qui vivent au milieu des autres citoyens. Même si notre patrie, c'est le ciel, nous sommes citoyens du ciel, il n'empêche que, invités par le Christ à rendre à César ce qui est à César, nous sommes invités à vivre notre vie de citoyen dans le pays où nous vivons. Bien. À partir de là, il y a une grande tradition de l'enseignement du magistère de l'Église qui invite les chrétiens à s'engager. Comme chrétien, à s'engager dans la vie de la cité, de participer aux élections, de éventuellement s'engager en acceptant de prendre des responsabilités, y compris des responsabilités politiques, comme à tous les échelons, comme maire, comme conseiller départemental, comme député, etc., etc. Bien. Ça, c'est une grande tradition de l'Église. On ne regarde pas le train passer, les bras croisés, en se disant, de toute façon, nous, notre patrie, c'est le ciel, et tout ça, c'est pas notre affaire. Ça, c'est un comportement typiquement sectaire. L'Église n'a pas cette tradition-là, et elle invite les chrétiens à se sentir concernés par la vie commune, et pas seulement par la vie des croyants,
de
la seule
regarde.
Communauté. Donc ça nous regarde. Mmh. À partir de là, chacun le fait, et ces jours-ci, il y a des articles qui disent, ben voilà, il y a des chrétiens qui s'engagent plutôt avec une sensibilité de gauche, d'autres qui s'engagent avec une sensibilité plutôt de droite. Mais tout cela est extrêmement légitime, parce que c'est du débat, parce que c'est des différences d'appréciation, parce que c'est des différences de sensibilité, de lecture, mais nous ne sommes pas indifférents à ce que vit la cité. Alors la situation présente, évidemment, ne peut que nous inquiéter, attrister, navrer. Le spectacle qui est donné, malheureusement, depuis des mois et des mois, peut-être même des années, est un spectacle assez navrant, où on a bien le sentiment que les gens sont plus ceux qui s'engagent, ceux qui exercent des responsabilités, en tout cas une certaine partie d'entre eux, sont plus préoccupés de leur propre bien que du bien commun. Mmh. Bon, je dis une banalité en disant ça. Mais le chrétien doit s'engager en apportant justement quelque chose d'autre dans cette manière de vivre l'engagement en politique, et précisément de contribuer à redorer ce que signifie un engagement en politique. Quand on lit les textes anciens de la Grèce antique, etc., ou les textes modernes, la Constitution de notre République, ou d'autres textes, et les textes du magistère, l'engagement en politique est une activité extrêmement noble au service du bien commun. Malheureusement, cet idéal est très très souvent dévoyé par des intérêts partisans, particuliers, personnels. On vise la prochaine élection et puis le reste, on s'en fiche un petit peu. Et là, il est clair, me semble-t-il, bon, c'est ma petite lucarne à moi, hein, mais qu'un certain nombre de difficultés que nous traversons maintenant sont motivées par l'objectif de l'élection présidentielle de 2027 et pas par la situation présente de la France affrontée à des questions qui, elles, nous dépassent parce qu'elles sont des questions générées par l'état du monde. Et nos affaires franco-françaises, eh bien, elles s'inscrivent dans un monde qui est en grave crise, où il y a la guerre partout et où il faudrait au contraire que ce bien... l'urgence d'être unis, soudés pour avoir une action cohérente et efficace dans ce contexte mondial dépasse les intérêts particuliers de tel ou tel groupe ou de telle ou telle personne. Malheureusement, ce n'est pas le spectacle que l'on a actuellement.
Alors ça paraît assez gnangnan de dire ça comme ça, mais au fond, ce qui est en jeu, c'est le vivre ensemble, c'est la vie en société, c'est simplement l'art de vivre ensemble. C'est un petit peu finalement le même défi que dans nos paroisses.
Le Concile Vatican II dit que c'est un des buts de l'humanité, c'est de constituer une communauté humaine fraternelle et qui, dans cette communion fraternelle, est unie à son Dieu. Ça, c'est l'idéal. Et l'Église, elle sert ce projet-là de l'humanité. Des chrétiens, quand ils s'engagent, que ce soit un niveau associatif, un niveau politique, un niveau professionnel, comme chef d'entreprise, comme responsable d'une famille, que sais-je, doivent construire, contribuer avec leurs moyens, leur talent, leur sensibilité, contribuer à poser une pierre qui construit cet édifice-là.
Ça, c'est donc la vision. C'est jamais pour soi, c'est toujours pour tous.
C'est pour soi, mais pour soi pris dans un ensemble. Et pour soi, quand on fait le bien de tous, eh bien on fait le sien aussi. Mmh. Voilà. Et pas l'inverse. C'est le bien commun, ce n'est pas l'addition des biens particuliers, parce que les biens particuliers, ils sont parfois contradictoires. Vous comprenez, celui qui veut que tout le monde aille dans une direction et celui qui veut que tout le monde aille dans la direction inverse, eh ben, ils n'ont pas la même conception du bien commun. Mmh. Voilà. Et donc, s'ils ne sont heureux que quand tout le monde va dans la direction qu'ils ont, eux, estimé être la bonne, eh bien c'est bloqué. Voilà. Et on est actuellement bloqué sur bien, bien, bien des points. Et il faut avoir une raison de transcender ces biens particuliers. Et cette raison de transcender les biens particuliers, c'est le regard que la foi donne d'avoir sur l'histoire du monde et sur le sens de l'engagement de chacun au service du bien commun.
Il y a peut-être aussi un risque de mettre un petit peu trop le nez sur les problèmes qu'il y a aujourd'hui, par exemple en France. On manifeste, on va dans la rue, on dit qu'on n'est pas content, on exprime sa colère, parfois en cassant. Tout cela, bon, on a peut-être raison de le faire, mais ça nous éloigne quand même
beaucoup
des
soucis. Vous avez raison, je n'ai pas tout à fait répondu à votre question. La manière de faire dans la vision chrétienne des choses, c'est certainement pas de tout casser, de tout bloquer, etc., parce que ça, ça construit rien, ça détruit sans construire.
Mais quand on n'est pas entendu...
Quand on entend l'évangile, le bon grain livré, il faut accepter de plonger dans quelque chose qui n'est pas parfait et progressivement de travailler à convertir de l'intérieur les choses. Mais la destruction, elle crée de la mort, elle ne crée pas de la vie. Voilà. Détruire, c'est créer de la mort, c'est donner la mort. Or, c'est pas le chemin qui est celui que la foi nous donne de choisir, quoi. On ne décapite pas les gens, on ne tue pas les gens parce que ça fait du bien à la société d'en supprimer quelques-uns. C'est pas comme ça. Donc il faut accepter l'imperfection, si j'ose dire, mais pour cheminer vers une amélioration. Et ça se construit de l'intérieur, par l'engagement, par le dialogue, par le respect, par la bienveillance, par la fraternité, par l'écoute aussi du cri et de la souffrance de l'autre. Parce qu'en effet, il y a beaucoup, beaucoup de souffrance qui s'exprime à travers ça. Et bon, malheureusement, le langage choisi par certains pour l'exprimer, c'est celui de la violence. Mais ce qui la motive, c'est en effet le sentiment de ne pas être entendu, que tout ce qui a été tenté jusqu'à présent ne sert à rien. Et donc... le rêve que si on met tout par terre, ben au moins on reconstruira sur de bonnes bases.
Oui, la colère, elle est quand même légitime.
Bien sûr qu'elle peut être légitime, mais à condition qu'elle ne soit pas motivée par des intérêts seulement personnels et particuliers. Si la colère, elle englobe toute l'humanité et vraiment, ou toute la société, alors je trouve que c'est bon. Et on a un devoir même de s'indigner de ce qui est injuste pour tous. Mais par contre, si c'est seulement « je suis très très en colère parce que les privilèges que j'avais, je les ai plus et je veux les récupérer, et tant pis pour les autres, ils n'ont qu'à faire comme moi pour eux aussi en obtenir », ça, c'est pas légitime.
Est-ce que ces situations, parfois, vous font peur ou vous font penser qu'on prend le risque d'endurcir le cœur de ceux qui ont la foi ? Est-ce que vous avez peur que les chrétiens aient un cœur endurci dans ces situations-là ?
Non, parce que je suis de la génération Jean-Paul II, comme on disait autrefois, et j'ai dans la tête et dans le cœur en permanence cet appel martelé par Jean-Paul II, « N'ayez pas peur », qui est l'appel de l'Évangile. On ne doit pas avoir peur. La peur n'est jamais une bonne... ni conseillère, comme dit le proverbe, ni ne fait prendre de bonnes décisions. C'est pas la peur, c'est la peine, c'est la colère, parfois, lorsqu'elle peut être légitimement motivée. Mais après, il faut se retrousser les manches et s'engager. Mmh. Et apporter une petite pierre personnelle à une construction qui va dans un sens que l'on juge bon, que l'on estime bon. Voilà. Mais ce n'est qu'une petite pierre, c'est une contribution. C'est pas nous, c'est pas moi, c'est pas mon parti, c'est pas ma corporation, c'est pas mon groupe qui sauvera le monde. Quand on est chrétien, quand on est croyant, le monde, il est entre les mains de Dieu. Et c'est le Christ qui le sauve. Mais par contre, il nous associe à cette œuvre de salut. Il demande notre coopération. Et pour ça, il faut ajuster notre vision de l'histoire à ce que la foi nous dit de l'histoire du monde qui va vers le ciel. Bon. Et ce qu'on peut faire, la petite pierre que l'on peut poser, la poser dans un édifice qui se construit dans cette vision-là. Mais j'ai pas peur, bien sûr. Ça prendra 10 siècles peut-être pour que les choses se fassent. C'est pas à l'échelle de ma vie à moi, mais ça fait rien. J'ai déjà mentionné, me semble-t-il, à la radio, combien j'avais été marqué à la veille de son décès, mort d'un cancer, par mon grand-père. Il avait 86 ou 7 ans, qui est allé dans le jardin pour planter un arbre. Il était absolument évident que cet arbre, il n'en verrait même pas les feuilles à la saison suivante. Bon, mais n'empêche qu'il y avait quelque chose de ça, il y a quelque chose de cet ordre-là dans notre humanité. La pierre que l'on pose aujourd'hui, elle est pour l'édifice qui se construit petit à petit. Voilà. Eh bien, je le fais, pas pour servir mon intérêt, puisque j'en verrai jamais le fruit moi-même, mais pour servir l'intérêt commun, et c'est à cela que le Seigneur nous associe. Mais j'ai pas peur, c'est lui le bâtisseur.
Merci beaucoup, Mgr Mika. On vous retrouve la semaine prochaine.